qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit.
Le Super Football Show.
Ah, ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà, tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non, hein?
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil.
Nicolas Villas.
L'after est de retour avec Ali Benarbia, toujours avec Jonathan McCarty, pardi. Simone Rovera nous a rejoint, le voilà. Salut,
ça va.
Ciao,
Simone. Comment ça va? Ciao.
Bonsoir. Apprends à rouler les airs sans déconner. Messieurs, on était en plein débat, en plein avis tranché, en plein débat. Voilà, le moins faible peut gagner gros ce week-end. Les matchs à distance, duel à distance entre Dijon et Lyon. Enfin, Marseille d'ailleurs et Lyon. Dijon, Marseille et Lyon, Toulouse, ce seront les affiches de ce week-end. On a Lionel, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Lionel.
Salut, salut toute l'équipe, salut tout le monde.
Salut Lionel. Alors, on a Lionel qui est assez optimiste, voire très optimiste, enfin très, t'es optimiste du moins pour l'OL pour cette fin de saison. Alors Lyon qui a 2 points de retard sur l'Olympique de Marseille au coup d'envoi de cette journée. Toi tu vois Lyon terminer devant Marseille?
Ah oui, clairement. Ben, facilement, parce que Marseille, c'est pas tant Lyon qui... Enfin, Lyon encore, il n'y a pas trop à parler. Moi la grosse déception à la Europa League, sinon après en championnat, ok, bon c'est une saison d'une grosse écurie, il y a des bas, mais c'est pas, la saison elle n'est pas critique en championnat, à part la grosse déception Europa League. Mais si on regarde même l'effectif et le projet de jeu, la façon de jouer, Marseille, le problème c'est qu'ils ont pour l'instant ils sont devant, d'accord, parce que nous on a eu un gros passage à vide là les 2 derniers mois, mais n'empêche que Marseille a un parcours de champion, mais qu'ils ont ni l'effectif ni la qualité pour l'assumer. C'est-à-dire qu'on voit toute la saison, on voit Marseille qui commence pas très bien sa saison, qui monte en bourre fin février, les mecs qui sont qualifiés en quart de finale d'Europa League, tout se passe bien, les mecs sont en pleine bourre. Le problème c'est qu'à la fin de la saison, les 8 dernières journées, je pense que ce week-end aucun des deux clubs sera faible. Lyon et Marseille seront très forts, mais je pense que, comme disait Ali, les grosses écuries commencent à rouler sur leurs adversaires en fin de saison parce que physiquement elles les font exploser. Mais je pense que Marseille, dans ce sprint final, là, dans les 5-6 derniers matchs, ils auront plus la capacité physique en plus pour aller chercher ces petits clubs qui jouent le maintien.
Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Lionel? Ça commence
parce que
à
déjà,
s'exciter. Hein.
Pour moi, déjà, ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, ils ont pris un gros coup sur la tête déjà après la défaite contre Lyon au Vélodrome, je pense, même c'est sûr. Et après, même si je pense qu'ils vont s'en relever facilement là sur les 2 ou 3 prochains matchs, ils vont gérer là. Enfin, je pense que physiquement ils vont être là, ils vont réussir à mettre l'envie et les ingrédients pour gagner. Mais je pense qu'après le coup sur la tête après l'élimination contre Leipzig, parce que pour moi ils ont clairement aucune chance de gagner, de passer.
Je suis d'accord avec lui.
Voilà.
Faut pas entendre.
Pour moi, il y aura un. Pour moi, il y aura une
chance,
deuxième.
Mais ça va être dur.
Vas-y, fini, Lionel.
Donc pour moi, il y aura un deuxième coup de massue encore sur la tête des Marseillais.
En fait, t'es voyant, toi, en fait.
Ouais. Non, du tout. Mais moi,
c'est bien.
Non, mais physiquement, ça se voit. Nous, on sort contre le CSK parce que clairement, on est au-dessus, mais on forme nos 2 matchs. Il n'y a pas à dire, on mérite de sortir. On a été rompu. D'accord. N'empêche qu'on était meilleur que nos adversaires. Marseille, d'accord, contre Bilbao, ça a été très solide.
Toi, t'es objectif, toi.
Lionel, je te coupe juste sur une chose. Je commençais à être d'accord avec toi, mais que tu dises que Lyon est bien, je suis désolé parce que avec tous les.
Moi déjà, t'as commencé en disant que Marseille a un effectif de champion, c'est ça que t'as dit?
Un parcours.
Et par contre, le parcours, s'il aurait continué. Mais c'est vrai que par contre, d'un côté, je trouve que Marseille commence à s'effriter physiquement au moment où c'était vraiment bien, et je pense que en plus d'être qualifié, ça va être beaucoup plus dur au moment où les matchs vont être plus durs. Au moment où les matchs contre les petits vont être plus durs et contre les gros aussi.
Ils jouent Montpellier entre les 2 matchs de la Ligue.
Oui, ça va être dur. Non, mais ça va être dur. Mais par contre, de l'autre côté, Lyon,
qui est des joueurs importants,
Lyon,
qui sont fatigués à l'OM, comme Thauvin, on sentait qu'il était vraiment sur les rotules. Il n'y a pas de problème que Gustavo, on le sente fatigué aussi depuis quelques matchs.
Il n'y a
pas de problème. En revanche, que la défaite contre Lyon fasse mal, ça aussi, tout le monde l'admettra. Mais en revanche, on arrive, enfin, il y a une trêve internationale de 15 jours. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pu refaire du frais. Je pense notamment à Gustavo. Alors effectivement, tu perds Thauvin, c'est malheureux. Mais il y a surtout quelque chose. Alors je sais que ça va en faire hurler certains.
Quoi ?
Mais je pense, je pense que l'OM peut s'appuyer sur deux ressources qui semblaient jusque-là inexploitées de par un manque de forme latent,
non.
que sont Dimitri Payet.
Non.
Dimitri Payet.
Qui va mieux, là, c'est vrai.
Non, pas l'autre. Qui va bien mieux.
Et pas l'autre, pas maintenant.
Non.
Moi je suis d'accord.
Je suis désolé. Non, quand non, je regarde
si, si, il a raison.
Regarde les stats de Mitroglou depuis le début.
Il est bien joué face aux bah, petites équipes justement.
Non, il est à 8 buts, je crois, depuis 2018.
Non, Jonathan,
il a eu un triplé.
C'est pas mal.
Jonathan, t'as raison parce que si j'avais 50 millions, j'achète Mitroglou.
Mais personne n'a dit que c'était un super attaquant. Personne n'a dit que Marseille avait.
Je te parle pas de.
Je pense toujours
Mitroglou quand il était bien, je crois.
Attends, attends,
attends. Je te parle de Mitroglou à Marseille.
Moi, je te dis pas que c'est un super attaquant. Je te dis juste que pour les petites équipes, Mitroglou qui est à son niveau, c'est-à-dire un niveau correct, je sais pas si c'est un très bon joueur, mais au moins un niveau correct, il fera le travail face à Dijon.
Alors Lionel, tu sais quoi Lionel, parité oblige. Ouf. Voilà, t'as donné ton avis, tu restes avec nous Lionel. On va accueillir Faisal qui lui est supporter.
Mais j'allais pas terminer.
C'est pas grave, c'est j'allais dire n'importe quoi.
Non, j'allais parler de Lionel. Non, j'allais parler de Lionel. Lyon, par contre, que tu me dis que Lyon, eux, ils sont costauds, ils sont bien, mais c'est une catastrophe, Lyon.
Ils sont pas bien.
Non, mais c'est catastrophique, et surtout à domicile, Lyon.
Sur le fait que le CSK était moins bon que Lyon. Lyon était moins bon que le CSK, quoi.
Ah oui,
sur le
match retour, vous êtes fait bouffer.
Oui, oui, sur les deux matchs, il n'y a vraiment pas à dire. En termes d'effectifs, pour moi, en qualité, on était meilleurs. Oui, voilà, après, je suis d'accord. On a été en dessous sur les deux matchs.
Faisal est avec nous. Faisal, t'es là ?
Bonsoir à tous.
Salut Faisal, ça va ?
Ça va.
Bon, alors t'as écouté Lionel, supporter de l'OL là, qui vient de donner son avis. Lui, il se voit terminer devant Marseille. Réponds-lui, Faisal. Alors
pour répondre à Lionel, j'entends.
Tu veux venir chez toi ? Non, je déconne, vas-y.
J'entends tes arguments, mais bon, apparemment, si je l'écoute, Lyon a un meilleur effectif, Lyon est meilleur, Lyon a moins de trous dans la saison, Marseille n'a pas un bon effectif, Marseille n'a pas le niveau, Marseille ne tiendra pas physiquement. En attendant, on est qualifié en Europa League.
Contre Leipzig aussi.
En attendant, on est qualifié en Europa League et on est à 2 points devant eux. Ouais, alors mais je suis d'accord, pourquoi c'est ça qui va vous plomber. Alors moi, pourquoi je suis pas inquiet ? Je me dis qu'aujourd'hui, vu le nombre de points qu'on a, et vu notre parcours face aux gros du championnat, je me dis que face aux petits du championnat, on a un parcours exceptionnel. Parce que perdre aller-retour contre Lyon, faire 0 victoire contre Paris et Monaco, et se retrouver à 2 points devant Lyon,
exactement,
c'est exceptionnel. Donc les 8 matchs qui arrivent, moi je m'inquiète pas, c'est les matchs où on est le plus solide, c'est les matchs où on est le plus sérieux. Que ce soit Dijon, que ce soit Lille, que ce soit Amiens, que ce soit Guingamp, ça me fait moins peur que si on avait pris des gros ou des confrontations directes. On a passé des confrontations directes, certes on n'est pas bon sur ces confrontations directes, mais là aujourd'hui, on est en forme, il nous reste quelques petits matchs, et ça va le faire pour l'OM.
Tu fais ça, tu sais pourquoi ? C'est parce que Marseille a un style de jeu qui Marseille pour l'instant
qui va bien pour les petits, c'est ça que tu
Marseille
veux dire.
Marseille pour l'instant, quand Marseille n'a pas la possession du ballon,
c'est
Marseille,
là où ils sont.
Marseille est pas l'équipe est pas à l'aise, le bloc est pas à l'aise. On est avec les milieux que Marseille a, Marseille doit avoir le ballon.
De toute façon, il y a pas de hasard, c'est contre les gros qu'ils ont du mal les Marseillais.
Contre les petits, vont exploser Marseille à la fin de la saison, c'est ça qui va les plomber justement. Même si toute la saison ils sont exceptionnels contre Marseille, là à la fin de la saison, ça va les plomber.
Dis-moi Lionel, est-ce que peut-être Rudy Garcia et les Marseillais vont surtout faire attention à garder cette troisième place, beaucoup plus que tout mettre toutes leurs forces contre Leipzig.
Je pense qu'ils vont tout
bien
jouer.
Bien sûr. Enfin, moi je pense que Garcia le voit comme ça, parce qu'il préfère jouer une Ligue des Champions l'année prochaine que risquer une demi cette année.
Ah, je vais poser une question à Faisal. Par contre, t'as entendu Faisal, Jonathan, il compte vraiment sur Mitroglou.
Ah, par contre, là, je peux pas le suivre.
C'est parce que je dis, ce que j'ai dit, c'est que depuis le début de l'année, Mitroglou a marqué quand même des buts. Ouais, depuis le début de l'année, Mitroglou ressemble à peu près à un joueur de foot, chose qu'il n'était pas pendant les 6 premiers mois.
On était blessé. Mais t'as bien dit à peu près.
Et je pense qu'on est à Marseille, on est très gentil avec Valère Germain. Mais on est très sévère avec Mitroglou. Je pense que c'est deux attaquants qui sont moyens.
Si je peux te répondre sur ce sujet, je pense que Valère Germain et Mitroglou, c'est incomparable. Parce que Valère Germain, on peut pas le juger sur son nombre de buts. On peut pas le juger statistiquement. Parce
c'est comme Benzema.
Mais c'est deux
Les déplacements de Valère Germain, les trous qui sont sur le terrain, le jeu qu'il a.
Le problème, c'est que Germain, avant qu'il perde, on va dire, de janvier à mars, il a pas été bon.
Oui, mais il apporte énormément aux autres.
De
janvier à mars.
Lionel Faisal, merci d'avoir appelé les mecs.
Dédicace, Nico.
Vas-y, je vais me faire engueuler, mais vas-y.
Ah, merci. Alors, je fais une dédicace à tout Consola, à tous mes potos.
Ah, bah, Consola, carrément.
Et à mes trois frères, Neidi, Ouzamedjer, et à ma femme aussi.
Ah, bah, c'est fait.
Fais ça, recrute Mitroglou à Consola. Même Consola, ils en veulent pas.
Salut, fais ça,
bonne soirée. Dédicace à toute l'équipe. Juste une petite dédicace pour tous mes potes qui m'ont écouté. Vraiment, c'était un régal. Merci de m'avoir appelé.
Ça aussi, pour passer.
Merci beaucoup, beaucoup. Et ben, sinon, Jonathan, quand on sera troisième à la fin de la saison.
Tu fais pas une dédicace à la Duchère, toi?
Comment?
Tu fais pas une dédicace à la Duchère?
Et ni à ta femme?
Non. Si à ma femme, un gros bisou.
Ouais, t'as oublié, t'as sauvé la vie.
Moi aussi, je lui fais un gros bisou.
C'est marrant, je m'en doutais.
Remboursé.
T'as même fils de paix d'un côté, et de l'autre côté, t'as mis trop glou.
Mariano.
T'as même fils de paix, ouais.
Mariano, les gars, Mariano.
Ouais, Mariano.
Le même fils, Mariano, grosse pépite.
Non, Mariano.
Mais il sera pas là demain. Bonne soirée, Lionel. Salut.
Salut. Merci, les gars.
Ciao, bonne soirée, Lionel. Allez, on ne perd plus un instant. Tiens, et inscrivez-vous, 32-16, il y a le quiz tout à l'heure. On va bien se marrer. Je sens le quiz est sympatoche comme tout ce soir. On passe à la vie tranchée.
Ouf.
De l'italiano, Simone Rovera.
Mais c'est pas possible de faire rien faire
en silence, il m'a interdit. Ah, c'est jaloux, les mecs. Ils assurent les Italiens.
Cousy, c'est facile à dire, ce cousy.
J'ai rien compris. Pas les acteurs ou pas?
Ouais, j'ai rien compris.
Mais tu reconnais les acteurs ou pas?
Il a rien compris.
Non?
Mais non.
C'est Junior.
Mais non, il connaît pas.
Pas Laurent Blanc.
Il connaît pas.
Explique-moi si tu veux.
C'est des acteurs, voilà. C'est
bon, je connais pas.
C'était quoi, Bronze et Fondition?
Je te parle de Lino Banfi et Dino Bramière.
Par contre, je suis pas sûr du film, mais vraiment.
Si, les Bronzés font du ski, oui.
Alors, Simone, ton avis tranché concerne le foot italien, c'est étonnant d'ailleurs, et la Juve notamment. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un match très important demain.
Bien sûr.
Voilà, demain, il y a la Juve qui joue face à.
Au Milan.
Exactement, Juve et Milan, le premier face au sixième. Mardi, il y aura Juve et Real Madrid également en Ligue des Champions. Et toi, t'as un avis qui concerne la Juve, c'est que la Juve peut tout gagner.
Ah oui, parce que déjà, je ne parle pas de l'idée que comme André Silva fait de bons matchs dans le Milan, maintenant elle est en forme, elle peut faire gagner le Milan. Parce que c'est pas ça, non.
Il n'a pas fait juste deux bons matchs. Il n'a pas fait juste deux bons matchs.
Mais oui, c'était pour te taquiner en début de. C'est une dédicace.
Ne parle plus de Mitro.
Toi aussi, tu fais des dédicaces. Toi.
Okay. Ouais. Déjà, la Juve, si, peut tout gagner. C'est parce qu'elle peut tout. Parce qu'elle a sur les trois compétitions. C'est-à-dire, c'est pas.
Là, déjà, c'est vachement intéressant ce que tu dis.
Bah, bien sûr. Merci. C'est pour
débuter. C'est pertinent.
Et je trouve que c'est Juve aujourd'hui. Avec des récupérations qu'il y a de les récupérations de certains blessés qui sont arrivés, qui vont arriver encore, Cuadrado déjà sur les bancs, demain soir, Bernardes qui va être récupéré, et il y a eu une gestion plutôt intelligente dans ces dernières semaines de Massimiliano Allegri. Je trouve que l'effectif est complet. Et au complet, c'est, une équipe qui peut aller vraiment encore plus loin que la saison dernière, et la saison dernière, elle a fait quoi? Elle a gagné les championnats, la Coupe d'Italie. Elle est arrivée en finale de Ligue des Champions. Bien sûr, il y a le Real Madrid, donc avant d'arriver à parler du gagner les triplés, il faudrait passer face aux champions d'Europe et du monde entier. Et Fred Hermel nous dira dans les prochains jours que c'est impossible, et je suis content de écouter que c'est impossible, parce que c'est mieux de réussir.
De pas être favori, même.
Voilà, c'est mieux de réussir là où est impossible plutôt que de réussir dans une compétition où tu es le favori. Et là où tu es le favori et où là où la Juve a l'obligation déjà de gagner, c'est demain soir face au Milan. Et il y a une obligation, et c'est une obligation sur laquelle la Juve ne se casse pas la tête. Elle est tranquille d'avoir cette obligation de gagner.
Elle a deux points d'avance sur le Napoli. Hein.
Elle a deux points d'avance sur le Napoli.
Qui joue
l'après-midi face à Sassuolo. Et donc, c'est très possible, c'est fort possible que la Juve demain soir commence le match face au Milan en retard d'un point face à Napoli. Donc, Naples va probablement gagner à Sassuolo. C'est une équipe plus forte, plus solide. Naples, c'est une équipe qui doit tranquillement aller s'imposer face à Sassuolo. Mais la Juve n'a pas cette pression, s'il se retrouve derrière, de dire, on doit récupérer un point à Napoli. Et ça, c'était la force sur tous les derniers mois, quand la Juve était derrière, quand la Juve était, voyait Naples enchaîner les matchs et les prestations. Demain, surtout, c'est un match à haut enjeu, avec des enjeux très intéressants. Pour un homme, on a parlé tout l'été. C'est qui?
Paolo Dybala.
Non, Allegri. Leonardo Bonucci.
Tu vois, j'allais le dire.
Il y a les retours.
Le retour.
Les grands retours de Bonucci.
C'est le Bonuccico un peu le match, finalement.
C'est le Bonuccico, je suis d'accord. Et s'il y a quelqu'un qui va souffrir, peut-être, ça, c'est pas la Juve. Mais c'est bien sûr Milan, Bonucci, qui va retrouver les stades où lui étaient les patrons, les leaders.
Bah, c'est un peu l'Allegrico aussi, non?
Oui et non, c'est-à-dire Allegri a déjà joué entraîné face au Milan,
il a déjà
gagné avec la Juve face au Milan. Bonucci était les joueurs qui sortaient pro premier avec la pendant la chanson d'échauffement de la Juventus étaient les premiers qui sortaient. Les symboles devant ses supporters, c'est lui qui prenait plus d'applaudissements. Demain, les supporters ont prévu de les siffler.
Et ça, même ça a été vécu insulter. Comme une trahison, tu veux dire.
C'est toujours vécu comme une trahison. Un tradimento.
Tradimento. Un piccolo, mon puperto.
Ouais.
J'étais pas loin, ça veut dire en italien.
Tout compris.
Il comprend, il a pas l'accent.
Donc, s'il y a une équipe... S'il y a une équipe demain soir qui risque vraiment gros, pour moi c'est Milan, qui mercredi n'a pas la Ligue des Champions, mais a les derbies, match en retard du championnat italien. Donc dans deux matchs, Milan va retrouver un peu quelle est sa vraie situation. Est-ce que c'est une équipe qui peut lutter pour la Ligue des Champions ou non? On va savoir dans deux matchs. Je pense que c'est plus non que oui.
Ali, Jonathan, j'aimerais avoir votre avis. C'est intéressant ce que tu dis. Vous voyez la Juve ou pas gagner les trois compétitions dans laquelle
et
elle
est
engagée?
Et la troisième, c'est bien sûr la finale de Coupe d'Italie face au Milan qui sera le 9 mai.
Non, concernant un petit peu comme le PSG, championnat et coupe, oui, je vois la Juve. Concernant face au Real Madrid, le problème, c'est que cette équipe de Real, dès qu'elle joue en Champions League, on dirait qu'elle a pris le dessus psychologiquement contre la Juve. Même si cette Juve, elle est costaud, elle est énorme.
Ouais, mais
elle est
pas favorite, c'est l'avantage, comme dit Simone.
Tu penses que c'est la même chose sur deux matchs plutôt que sur un match seul?
Même sur deux matchs, j'ai vu la Juve se faire bouger par Tottenham, mais qui ont pris le dessus. Pourquoi? Parce que là, t'as.
Ouais, mais là, elle était favorite pour le coup.
Oui, mais elle aurait pu ne pas passer du tout. Elle y a réussi parce que elle a plus l'habitude. Mais le Real, à ce niveau-là. Passe pratiquement tout le temps, sauf contre Barcelone.
Simone, moi je pense que la Juve cette année, elle a un style qui est, enfin un style, elle a des points
caméléon,
forts qui sont un peu différents de ce qu'ils étaient auparavant. Je trouve que là ils sont moins bons défensivement, c'est quand même plus perméable. Je les trouve un peu plus. Alors je te parle, enfin en championnat ça continue de passer parce qu'ils sont tellement au-dessus des autres qu'ils ont une marge.
Oui, ils ont encaissé zéro but en 2018 en championnat.
En championnat,
3 buts en toute compétition confondue, c'est les trois qui marquent Tottenham.
En championnat, ils ont une marge qui leur permet de toujours être au-dessus de la mêlée, mais on a vu. Contre Tottenham, que quand t'as des attaquants d'un autre niveau, ça pouvait quand même être un petit peu plus friable. Et je pense que je sais plus si c'est le premier ou le deuxième but de Tottenham au retour. Je pense que la Juve l'année dernière l'encaisse pas. En revanche, je trouve que c'est une équipe qui joue bien. J'ai l'impression qu'en France, on pense que la Juve c'est un bus, c'est un autobus qui marque un but par match. Non, c'est une équipe qui joue bien. Et je trouve ils ont une personnalité un petit peu défensive, un peu moins marquée par rapport à l'année dernière. C'est pour ça que j'ai autant l'année
passée. Il y a moins l'empreinte de Bonucci la saison dernière. Voilà, c'était vraiment Bonucci qui était un peu le leader qui donnait ainsi. Ça marque
autant
la première
passée,
élance.
Autant l'année passée, j'aurais cru que la Juve gagne la Ligue des Champions. Je pensais que la Juve allait gagner la Ligue des Champions l'année dernière. Je les voyais vraiment comme un des gros favoris. Là cette année. Je pense que, enfin voilà, c'est comme c'est moins solide, non?
Tiens, petite parenthèse, tout à l'heure avec David Lortolari, on évoquait la piste Thomas Tuchel du côté du Paris Saint-Germain. Il y a une rumeur également, Allegri. Moi, je te le dis, il plaît à certains dirigeants du Paris Saint-Germain. On parlait du directeur sportif notamment.
Ce serait le meilleur compromis.
Alors, il en a parlé, je crois, aujourd'hui en conf de presse, Allegri, de ces rumeurs. Alors, lui, il a dit qu'il était sous contrat, c'est ça, avec Rio.
Lui fait comprendre que, quand même, lui, il est dans un grand club et il aime rester dans un grand club comme la Juve, c'est-à-dire. Il fait comprendre pourquoi je dois aller ailleurs quand je suis à la Juve. Il y a un discours à faire derrière. Si jamais Allegri gagne avec des champions, il y a des portes qui s'ouvrent.
Il est courtisé
pour lui. Donc,
mais il en a déjà des portes ouvertes.
Chelsea.
Oui, mais une chose, si tu es l'entraîneur qui gagne avec des champions après avoir fait deux finales en trois ans, l'autre, c'est un entraîneur qui arrive jusqu'au bout. Parce qu'au final, Simeone qui a fait deux finales, il est resté toujours à l'Atlético. On attend toujours de le voir partir. C'est lui qui dit je veux rester à l'Atlético. Mais les jours où tu arrives en grand club, United, Barça ou Real, qui t'aimait. Les doubles, les triples de ton salaire sont dans ta main. Ouais. Est-ce que tu vas continuer à rester pour te décider? Je crois pas. Allegri dit, je suis dans un grand club. Et je crois que pour un entraîneur comme Allegri, pour comment il était parti du Milan, comment il s'est retrouvé à la Juve, presque même inattendu.
Oui, il est champion avec le Milan quand même. Hein.
Il est champion avec le Milan. Mais c'est fait virer
l'année suivante, le titre, ça s'est mal terminé, ça s'est mal passé. Mais quand même, la saison où il est champion, il a certes un effectif de feu, mais c'était pas mal à voir aussi.
Oui, mais sauf l'envie, sauf l'envie d'un nouveau défi au beaucoup plus d'argent. Il est vraiment dans une top club mondial aujourd'hui.
Bien sûr.
L'idée de partir, c'est pour aller
au-dessus.
Pour changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au-dessus?
Pour finir, Jonathan, vas-y.
Juste par rapport à la situation d'Allegri, est-ce qu'il y a déjà des pistes qui sont exploitées pour le recrutement au mercato? C'est quel genre de joueurs qui sont visés?
Ils ont déjà beaucoup d'effectifs. Il faudra attendre le départ.
Il faut voir surtout le départ. Si, comme on pense, quelqu'un Et Pjanic va partir, on va voir. Siliba va partir, on va voir. Il y a un homme qui a été fait, qui est fort probable que la Juve va prendre, si les conditions sont bonnes, c'est Pellegrini, le milieu de terrain de la Roma, qui est en clause de départ sur les 30 millions. La Juve est fort intéressée. On parle de, je te l'ai dit il y a deux minutes.
Diogo Dalot.
Voilà.
Latéral du
Porto. Joueur, donc la Juve continue à faire son mercato, on peut dire, vers l'avenir. Il faut rappeler que Caldara va revenir. Spinazzola va revenir.
Merci beaucoup Simone, tu restes avec nous. Avec ça dit plaisir. De faire le quiz ou pas? On vous attend 32-16.
Non, je veux gagner les quiz.
Oui, bah,
c'est
pas,
c'est quoi, c'est l'Italie,
c'est ça. C'est un quiz spécial roulage de R. Dans quelques instants, il va rouler des mécaniques. C'est David Nortolari, l'avis tranché de l'Allemagne. On aura Philippe Auclair également avec un avis tranché sur l'Angleterre. Et on sera avec François Modesto tout à l'heure. François Modesto, qui est le directeur sportif de l'Olympiakos. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Grèce ces derniers jours. Et on fera le point avec François Modesto.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, Jonathan McCarty, Simone Rovera est toujours avec nous. On a fait l'avis tranché italien de Simone Rovera. Comme ça qu'on roule. On va faire celui de David Lorto. Lorto, t'es là ou pas?
Je suis là, salut messieurs, re-salut.
Lorto, jingle.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Ce qui est absolument vrai d'ailleurs, David Lorto, Larry, n'est-ce
c'est
pas?
Moins cher.
Ouais, je me suis un peu assoupli.
En même temps, le mur est tombé depuis un moment déjà également. Alors ton avis tranché, il concerne le choc de ce week-end. Alors le Bayern qui peut être sacré champion, si je dis pas de conneries, c'est ça, ce week-end, qui joue face à Dortmund. Oui. Il y a 18 points d'écart entre les deux équipes. Alors il y a Schalke qui est entre les deux, qui a un point d'avance sur
Schalke. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Une belle saison.
Et alors toi, t'as un avis quand même, malgré tout, malgré ces 18 points d'avance du Bayern sur Dortmund, bah, c'est que c'est le moment pour le BVB d'aller embêter le Bayern, c'est ça?
Ouais, c'est le moment. Ouais. C'est exactement. Et il y a quelques petits points de circonstances là qu'on peut relever ce soir, sur lesquels je voudrais insister, qui peuvent nous permettre de penser que ça pourrait éventuellement en faveur du Borussia ce week-end. C'est le choc, hein, évidemment, du championnat. C'est ce samedi à 18h30. Et figurez-vous que le Bayern s'est un peu empêtré, s'est un peu compliqué la tâche de différentes façons ces derniers temps, avec par exemple un débat qui pollue un peu l'espace médiatique bavarois et aussi peut-être la tête de certains acteurs du club sur cette fameuse règle du 50+1. Qui a été maintenu par la Ligue de football allemande, qui veut que un investisseur ne peut pas dépasser la moitié des parts du club. Et il se trouve que le président Rummenigge au Bayern a continué de militer bruyamment pour que cette règle soit abolie, assouplie, et il s'est mis un peu à dos la grande majorité des clubs allemands. Et ça, c'est pas très très bon pour le climat actuel au Bayern. Il y a un autre point, c'est la recherche du nouvel entraîneur. On parlait de Thomas Tuchel peut-être vers le PSG tout à l'heure. Il se trouve qu'au Bayern, même si la cour a été assidue en direction de Jupp Heynckes, celui-ci n'a absolument pas ouvert la porte à une possibilité de prolongation. Et du coup, le Bayern est un peu coincé parce qu'il a courtisé cet entraîneur longuement par l'intermédiaire de Uli Hoeness. Et derrière, ça veut dire que l'entraîneur qu'on va venir chercher, on a pensé à Tuchel a dit non, c'était le choix numéro 2. Et ça veut dire que l'entraîneur qu'on va venir chercher derrière, ça va être le choix numéro 3. Et c'est un peu un problème au Bayern en ce moment, parce que ça complique un peu la situation.
Et c'est un nom ferme et définitif de Heynckes.
Non.
Ah, c'est peut-être pour
ça. Le monsieur est retraité, je vous rappelle. Donc il y a plus de chances qu'il ait envie de retourner voir. Disons que le fait qu'il ait pas envoyé le moindre signal positif et qu'il se soit agacé chaque fois qu'on parlait de cela n'est pas forcément un très bon signe au Bayern. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, alors que ce club a l'habitude souvent de 6 mois avant savoir un peu où il va, là ça semble un peu plus compliqué. Même si officiellement, en surface, le discours, notamment Salihamidžić, le directeur sportif, tout le monde se veut rassurant, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux positifs à ce niveau-là. Il y a un autre problème aussi au Bayern, qui va occuper la tête des joueurs ce week-end quand même un peu, c'est que mardi prochain, on rencontre en quart de finale aller de la Ligue des Champions le FC Séville. Or, il y a quand même un petit traumatisme espagnol au Bayern. Défaite, élimination contre l'Atlético Madrid, élimination contre le FC Barcelone, élimination contre le Real Madrid ces dernières saisons en Ligue des Champions. Autrement dit, même si Séville n'a pas forcément la valeur des trois que je viens de citer, ça va forcément passer un peu dans les esprits. Et puis après, il y a aussi, côté Dortmund, la nécessité de dépasser Schalke. Nico, tu faisais allusion justement à ce placement très serré
pour
la deuxième place. en Bundesliga. C'est l'occasion quand même pour Dortmund de frapper un coup vis-à-vis de ses adversaires directs, à savoir Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen et bien sûr Schalke. Il y a un problème quand même, et ça, ça va être ma petite nuance pour terminer cette avis tranchée en faveur de Dortmund. Il y a quand même un problème, c'est que Marco Reus n'est pas encore suffisamment remis, ne sera pas disponible pour ce match. Ouais. Côté Bayern, il manquera Vidal, mais on sait qu'il y a des solutions de remplacement, oui, évidemment. Et côté Dortmund, ça pèsera peut-être un peu plus lourd, quoi.
Dis-moi, Joachim Löw au Bayern, Niet.
Nine.
Ah oui, alors ça c'est des fantaisies médiatiques pour faire joli.
On en parle au PSG
ni
aussi.
Ni Bayern,
hein.
Ni PSG, ni rien du tout. Non mais attention, soyons sérieux.
Le sélectionneur.
Ah quoi, il a le droit de vouloir entraîner
un club. Il restera là.
Oui, attends, David.
L'intérêt
ne peut pas être réciproque.
Oui, non mais il est en contrat jusqu'en 2020 avec la sélection et il va être il va être sélectionneur au moins jusqu'à la fin du mondial. Enfin même, bon évidemment si l'Allemagne ne va pas en finale, ça s'arrête un peu avant. Mais bah oui, dans des clubs comme ça, débarquer comme entraîneur le 15 juillet alors que la préparation est commencée depuis 2-3 semaines, c'est compliqué quand même.
Eh ben merci mon Lorto, voilà qui est dit.
Salut, voilà, donc beau match à suivre ce week-end en Bundesliga. Ah, et je suis pas en train de dire que le Bayern,
28e
Bayern va perdre, mais je dis qu'il y a quelques éléments qui permettent de dire que peut-être il y a des perturbations dans le ciel bavarois.
Bon, écoute, les mecs, ils ont 18 points d'avance, mais c'est la crise, enfin 17. Quoi. Mais il y a des trucs qui peuvent polluer, t'as raison. Il n'y a pas que les moteurs des bagnoles en Allemagne qui, des fois, polluent. Bref.
Il y a des beaux matchs ce week-end, partout. Hein.
C'est pour ça qu'ils roulent en voiture italienne. Tu sais que Lorto, qui est un fan de l'Allemagne, il s'habille allemand et tout, il boit allemand, ouais. Il bouffe allemand, il berger allemand même, il roule en voiture italienne depuis les années 80. Non, mais c'est vrai, il ne roule qu'en voiture italienne.
Il joue pas.
Et qu'une seule marque d'ailleurs.
Fiat.
Non.
Il était pas avec
Lada. Non, Lada c'est russe.
Alfa Romeo. Oui, je sais. Mais
Ferrari.
Ferrari, Alfa Romeo.
Voilà.
Non, mais il roulait
pas de marque comme ça, ça passe.
Il roulait pas un Lada avec les habits de la RDR.
La Trabant, non, ça non. J'ai jamais fait.
Bon, merci, mon Lorto. Bonne soirée. Demain, le choc, on vous le rappelle, entre le Bayern et Dortmund. On file en Angleterre maintenant. Philippe Auclair était avec nous. Ça va, mon Philippe? Non, il sera là dans quelques secondes d'ailleurs.
Ouais, s'il veut. C'est quand tu veux, Philippe.
Alors, je vous donne le programme quand même de ce week-end en première ligue. 32e journée de PL ce week-end à suivre sur SFR Sport. Demain, il y a Crystal Palace face à Liverpool. Il y a Manchester United face à Swansea. Duel à distance entre Liverpool et Manchester United. Et dimanche, il y a un derby à Londres, l'un des derbys londoniens. Gros choc également. Match entre Chelsea et Tottenham. Chelsea qui peut revenir à 2 points de Chelsea en cas de victoire. Et donc des places qualificatives pour la Ligue 1 de Chelsea. Chelsea qui peut revenir à 2 points de Tottenham en cas de victoire. J'ai réussi.
Voilà.
Tu vois, vous me suivez.
Tu parles. Je crois que tu parles dans le
vide. Non, tout à l'heure, j'ai dit une saucisse, vous m'avez pas.
Non, c'est parce qu'on voulait pas
trop. Parce que c'était trop grand, la saucisse.
C'est une bonne saucisse.
C'est pas évident. De s'occuper d'une soirée comme ça. Donc, t'as le droit des petites savonnettes.
Pour organisateur de soirée.
Non, t'as le droit des petites savonnettes, des petits problèmes comme ça, c'est normal.
Soirée, saucisse, savonnette, arrêtez là.
Il est là, Philippe Auclair. Ça va, Philippe?
Oui, bonsoir les amis.
Tu vas bien,
Philippe. Salut Philippe.
Ça va.
J'ai cru que tu viendrais pas, dis donc.
Pardon ?
J'ai cru que tu viendrais pas.
Mais si. Attends, excuse-moi, j'ai un problème.
Ouais, j'ai cru que tu te barrais aussi.
Excuse-moi, j'ai un problème technique.
Ah, voilà. Ça va mieux là ou pas ?
Oui, c'est mon casque qui montre son âge. C'est pas moi.
Alors Philippe, ton avis tranché, il concerne le choc de dimanche, le match, on en parlait il y a quelques secondes, entre Chelsea et Tottenham. Et alors pour toi, alors voilà, on parle de derby d'Angleterre, derby de Londres, Liverpool, Everton et blabla. Pour toi, c'est le derby le plus chaud d'Angleterre.
C'est peut-être pour des raisons personnelles, Nico, parce que j'ai sans doute jamais été aussi remué par un derby que je l'ai été il y a 2 ans de cela. Ah. C'était en mai 2016, donc c'est très récent. Et c'était un match absolument crucial pour le sort du champion d'Angleterre puisque Chelsea recevait Tottenham et que Tottenham à l'époque était le seul club qui pouvait encore faire échouer Leicester dans la course au titre. Et Tottenham s'est retrouvé à mener 2-0, je crois qu'il y avait un but de Harry Kane entre autres. Et je n'oublierai absolument jamais l'ambiance à Stamford Bridge ce soir-là, l'animosité, je dirais presque la haine. Dans un sens que j'espère positif, c'est toujours, tu sais, en football, c'est un peu compliqué par moment, hein. Mais il y avait une intensité, une espèce de flamme qui brûlait dans ce match que je n'ai retrouvé dans aucun autre match en Angleterre. Et c'est quelque chose qui est typique de ce qu'est devenu le choc entre Chelsea et Tottenham. Je sais que ça peut surprendre parce que les gens vont dire, oui, le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, le derby de Manchester, bon, encore que, mais surtout entre Manchester United et Liverpool, ou entre Arsenal et Tottenham. Non, non, non. Le derby qui est devenu le plus dur, le plus intense, émotionnellement le plus difficile à vivre aussi, et parfois le plus, je dirais pas le plus dangereux, mais le plus inquiétant, c'est vraiment celui-là entre Chelsea et Tottenham. Franchement, les gars, je vous promets, je pense qu'il y a des équivalents dans d'autres pays, mais au niveau de l'intensité, de l'animosité qui peut exister entre ces deux équipes et ces deux clans de supporters, moi, je n'ai jamais vu ça en Angleterre. Franchement. Ça surprend, peut-être.
Bah, je t'avoue, moi, quand Jérôme Thomas m'a dit, bah, tiens, l'avis de Philippe, ça va être ça ce soir, je t'avoue que j'avais été étonné. C'est ouais. Vrai, en plus, alors, celui de ce week-end, de dimanche, tout particulièrement.
Ah, puis il a un enjeu énorme.
Un enjeu terrible. Énorme, je le disais, il peut revenir à deux points, les Blues, là, des Spurs, hein.
C'est la dernière chance pour Antonio Conte et ses Blues. Si jamais ils font match nul ou ils perdent cette rencontre, tu peux oublier le top 4. Je dirais pas que Antonio Conte peut oublier sa place à Chelsea, parce que de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est
il
fait.
Il veut partir. Hein.
Ça, donc, il veut partir. Et puis, je pense pas nécessairement que le club veuille le retenir. Mais en tout cas, pour ce qui est du destin de l'équipe elle-même, c'est certain que c'est ce week-end que ça va se jouer. Maintenant, bon, Manchester City sera champion. Manchester United, sauf gros accident après la victoire contre Liverpool, sera second. Liverpool est bien parti pour être troisième. Reste la quatrième place déterminée pour laquelle Tottenham est largement favori. En cas de victoire de Tottenham ou même de match nul, vu le nombre de matchs qui resteront à jouer, c'est-à-dire 7, puisque c'est la 31e journée demain qui commence, ça veut dire que grosso modo, tous les espoirs d'Antonio Conte et des Blues pour terminer dans le top 4 seront morts.
Enfin, Philippe, ce qui aura Tottenham peut la seconde place même.
Ouais, mais
c'est
la différence
entre les trois là.
La différence, quand tu vois le calendrier, non, pas véritablement. Bon, je pense que le match dans ce contexte-là, le match très important, c'était celui entre Manchester United et Liverpool. Quand Manchester United a gagné de manière assez brillante avant de se prendre les pieds dans le tapis contre Séville en Ligue des Champions. Mais en l'occurrence, si tu veux, je pense que c'est le dernier match à gros enjeux pour la tête du classement qui reste en champion d'Angleterre. Voilà. Il y a beaucoup d'autres matchs, Nico, Jonathan, tous les autres, Ali, qui vont avoir une grosse importance ce week-end parce que tu regardes les affiches, c'est des matchs à 6 points, t'en as partout, hein.
C'est vrai que c'est bien pour le maintien d'ailleurs que pour le
maintien.
Tableau. Ouais. Maintien, c'est extraordinaire ce qui se passe.
Ça va être chaud.
Ça va être hyper chaud, d'autant plus chaud que bon, évidemment, les enjeux sont pratiquement plus importants. Si tu veux, il y a plus d'enjeux aujourd'hui lorsque tu es dans les 10 dernières équipes du classement de la première ligue.
Industriellement, c'est catastrophique, la relégation.
Ça fait du mal. Ouais. C'est pas la fin du monde, parce que tu vois des équipes comme Burnley qui sont remontées, tu vois une équipe comme Newcastle qui est remontée, mais il faut avoir un plan, un projet, etc. Mais il y en a d'autres pour lesquels tu ne vois pas ce plan, tu ne vois pas ce projet.
Et les Bolton et tout, il y a des clubs qui étaient en PL il n'y a pas si longtemps que ça.
Wigan est redescendu en 3e division. Ouais. Tu as des clubs comme ça qui peuvent, tu peux descendre tout d'un coup. Quand tu vois la compétitivité qui existe en Championship, c'est-à-dire en deuxième division anglaise, tu sais très bien que tu peux avoir de gros problèmes. Ouais. Donc, ça va être un week-end important, mais je dis encore une fois, ouvrez les oreilles, écoutez, regardez ce qui va se passer à Stamford Bridge ce week-end. Ça risque d'être assez extraordinaire. En plus de ça, je pense que c'est un match pour lequel les fans de Chelsea, qui aiment beaucoup Antonio Conte, parce qu'ils n'ont absolument pas perdu leur loyauté vis-à-vis de lui, je pense qu'ils vont avoir à cœur, dans le match qui compte plus que quelconque dans la saison pour eux maintenant, je pense que ça va être encore plus chaud que d'habitude. Donc ça va être inouï.
Eh ben merci mon Philippe, merci pour cette invitation.
Bon, on y sera, bien évidemment, on va vivre ça ensemble.
Together. Merci beaucoup Philippe,
bonne soirée à vous.
Dans quelques instants messieurs, on ira faire un petit tour du côté de la Grèce, mais c'est pas les vacances, on sera avec François Modesto, directeur sportif de l'Olympiakos. On va revenir sur tous les incidents qui sont produits, alors je vais pas dire ces derniers mois parce qu'on a eu trop, mais notamment ces derniers jours, que ce soit le PAOK, l'Olympiakos également, il y a pas mal de choses à dire. Et François Modesto, directeur sportif du club du Pirée, nous fera le plaisir d'être avec nous en direct dans l'After. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia, Jonathan McCarty, Simon Rovera sont avec nous dans l'after. On vous attend pour le quiz dans quelques instants. Vous vous inscrivez, vous faites le 32-16. Il y a un lot de t-shirts de l'after à gagner. Avec 5 t-shirts de l'after. Pour jouer au urban avec les copains. C'est pas beau ça.
Ah, c'est pas beau.
Messieurs, on a eu vos avis tranchés, on a fait un petit tour d'Europe il y a quelques instants, on était en Allemagne, on était en Italie, on était en Angleterre il y a quelques instants aussi. On va partir en Grèce maintenant. Je vous recontextualise un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté de la Grèce. Alors, le 12 mars dernier, choc de la 25e journée entre le PAOK et l'AEK, qui a été entaché par de nombreux incidents. Alors, l'arbitre invalide un but du PAOK en fin de match, ce qui provoque une invasion du terrain. Le patron du club, Ivan Savidis, pénètre sur la pelouse avec une arme à la ceinture. Alors, certains médias expliquent qu'il s'agit, il s'agirait d'un taser. Le match est estompé durant de très très longues minutes. L'arbitre revient sur sa décision et valide le but. Alors, le championnat a été suspendu suite notamment à cette affaire par le ministère des Sports. Et il reprend ce week-end le championnat grec, l'Ethniki Kategoria, le championnat grec. Et hier, on a appris que le président du PAOK Salonique était interdit de stade pour 3 ans. Son club est sanctionné par 3 points de retrait en championnat. Conséquence, le PAOK était leader, glisse à la 3e place. On a l'Olympiakos qui a également perdu 3 points qui ont été récupérés en faveur de l'AEK Athènes. Ça, on en a beaucoup moins parlé d'ailleurs en France. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AEK est leader du championnat grec et ils ont...
Grâce à
cette histoire, face au PAOK et aussi face à l'Olympiakos. Et donc l'AEK est leader et il nous fait le plaisir d'être en direct avec nous dans l'after. François Modesto, directeur sportif de l'Olympiakos. Bonsoir François, merci d'être avec nous.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Alors, François, vu de l'extérieur, on a l'impression que le foot grec, il est à feu et à sang là depuis quelques semaines.
Oui, c'est exactement ça. Malheureusement, la politique est passée au-dessus du sport. Et c'est vrai que les images qu'on a vues dernièrement du président du PAOK, et ce qui s'est passé à PAOK, c'est pas bon pour le football grec, c'est pas bon pour le football européen. Et c'est dommage parce que, bon, pas oublier que nous, on est allé faire un match au PAOK. On n'a même pas commencé le match parce que notre entraîneur a été agressé par un rouleau de caisse enregistré.
C'est Oscar Garcia, on le rappelle, qui était à Saint-Etienne voilà. Il y a quelques temps. Ouais.
Donc ça crée des problèmes. Et puis après, la semaine d'après, le président de PAOK descend sur le terrain. Et puis surtout, il est en train de se jouer un jeu politique en Grèce. C'est avec les hommes politiques, le gouvernement s'est mis au milieu. Et ils essaient de faire tomber aussi mon président, M. Marinakis. Et ça, c'est dommage parce que c'est un président qui est très très présent. C'est un président qui aime son club. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, il a été... on va dire innocenté par rapport au match que soi-disant il y a eu des matchs qui avaient été un peu truqués. Donc il a été innocenté par ça et puis 2 jours après on apprend que maintenant il est poursuivi pour trafic de drogue sur un bateau de commerce qu'il a quoi, parce que c'est un grand amateur. Donc ça prouve à l'heure actuelle qu'au niveau politique en Grèce au-delà du football c'est en train d'essayer de toucher mon président. Mais bon, comme je le connais très bien, il se battra et il montrera à tout le monde qu'il est propre, comme il a fait, et puis il protégera aussi son club.
François Modesto est en direct avec nous dans l'after, directeur sportif de l'Olympiakos. Ali Benarbia, une question pour toi, François.
Bonsoir, François. Toi qui avais connu des moments assez chauds du côté de Bastia, je veux dire, la Grèce, ça, c'est pas que ça te change pas, mais en général, on sentait surtout la chaleur au niveau du public, des supporters, mais pas autant politique que ça. Qu'est-ce qu'il a pu se passer en si peu de temps ?
La crise économique.
Oui, ça fait longtemps quand même, la crise économique.
Oui, mais bon, ça va au-delà de Bastia. On n'a jamais vu ça en Europe. Un président qui descend avec une arme sur un terrain, c'est en tant que footballeur, ancien joueur de football, c'est choquant. Quand on s'aperçoit qu'il y a un ancien arbitre comme Miguel qui attaque l'arbitre et qui lui dit en direct qu'il est fini pour le football, c'est choquant. Et surtout, la chose qui est le plus importante, c'est que au niveau politique, au niveau du pays, on essaie d'attaquer mon président et de le faire tomber par tous les moyens. Et ça, c'est grave parce que on peut pas mettre la politique avec le foot, quoi. Et ça, c'est une chose qui touche mon club et qui est choquante parce que le foot, c'est pas ça, quoi.
Alors, François Modesto, en tant que directeur sportif, t'es amené à travailler sur le recrutement également. Est-ce que toutes ces affaires, tu sens que ça pose déjà problème pour attirer des joueurs? Est-ce que c'est plus dur de les convaincre maintenant?
Oui, ça peut poser problème. Vu l'image dans le monde entier Camille, le président du PAOK, je peux vous dire que ça fait mal au niveau même pour essayer d'attirer des joueurs. Hein. C'est pas bon pour le football grec et c'est pas bon aussi pour le club comme l'Olympiakos parce qu'il faut pas oublier que c'est le plus grand club de Grèce qui a remporté beaucoup de titres et qui a toujours eu dans ses effectifs des grands joueurs comme Karambeu, comme Abidal et tout. citant les Français, donc ça va être, c'est pas évident, quoi.
François, bonsoir. T'as eu des, là, je suppose que, est-ce que t'as eu des retours déjà de joueurs avec qui tu serais en contact? Est-ce qu'ils s'interrogent sur la situation négative?
Pour le moment, ouais. Non, j'ai pas eu de retour, mais bon, je pense que si moi je me mets à la place des joueurs, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Avec cette image-là, le championnat grec a pris un coup quand même. Hein.
Alors, toi, tu avais joué à l'Olympiakos entre 2010 et 2013. Est-ce que c'était déjà tendu? Parce que c'est vrai que les problèmes dans les tribunes en Grèce, ça date quand même déjà. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une dégradation de la situation?
Mais oui, moi je pense que malheureusement, je pense qu'on utilise le foot pour faire tomber certaines personnes, dont mon président. Et on utilise le foot pour le faire tomber au niveau politique. Et ça, c'est très très grave. Avant, c'était pas comme ça. C'est vrai qu'en Grèce, c'est chaud, les derbys sont chauds et tout. Mais bon, là, on a passé la limite, quoi.
François,
c'est vraiment très grave, quoi.
Tu connais bien le pays, tu connais bien la Grèce, tu y as joué, maintenant tu travailles en tant que dirigeant. Mais est-ce que tu sens que, mis à part dans le foot, le climat au sein du pays a aussi changé dans la vie de tous les jours?
Après, en Grèce, on vit bien. Malgré la crise financière, c'est un peuple qui est quand même tranquille, qui, voilà, à part dans le foot, qui sont beaucoup fanatiques. Mais bon, je pense qu'au niveau politique, il y a eu beaucoup d'erreurs ces dernières années. Et là, ils essaient de se rattraper.
Et ça rejaillit sur le football.
Ouais. Voilà, ça revient
sur
le football.
Il y a souvent une instrumentalisation.
Bien sûr, voilà. Ouais. C'est là où je veux en venir.
Et ça, c'est très grave, quoi. C'est très dangereux, quoi. C'est pas dangereux, quoi. Surtout quand on s'aligne une personne comme mon président, qui est un homme d'affaires très reconnu au niveau mondial, qui est sa société cotée en bourse à New York. Il est propriétaire de Nottingham Forest en Championships. Donc, vous imaginez, quoi.
Bien sûr.
Ah, Simone.
Bonsoir, François. Je voulais savoir qu'est-ce que tu vois d'ici à la fin de la saison sur le plan sportif. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, tu auras parlé aussi avec de d'autres directeurs sportifs dans d'autres clubs. Est-ce que vous avez envoyé une idée, une vision plutôt négative des prochaines semaines, de comment se peut terminer les championnats?
Non. On ne sait pas. On dira la vérité. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer au niveau politique, à la fédération, à la ligue, et aussi avec le gouvernement en place. Donc, pour l'instant, on est dans le fou complet. Nous, on peut dire seulement qu'en tant que Olympiakos, en tant que, ouais, que grand club, on va essayer de se battre, de protéger le football grec et de faire le maximum.
Et vous, François, si vous pouviez faire des propositions pour arranger la situation du football grec dans son ensemble, qu'est-ce que vous feriez?
C'est compliqué. Hein,
c'est pas au foot de régler les problèmes.
Non, mais je sais pas, restructurer la fédé, tu vois.
Enfin, c'est pas eux qui peuvent décider.
Il y a peut-être des pistes.
Moi, je pense que voilà, que la FIFA, l'UEFA, voilà, il faudrait restructurer tout ça et regarder bien ce qui se passe.
Devrait mettre la fédé sous tutelle.
Voilà, et punir les gens qui.
Il y a vraiment la politique qui s'est
mêlée. Punir les gens qui font des erreurs, quoi. Parce que bon, on peut pas arriver à des choses comme ça, vous savez, ça c'est très très grave. Je vais vous prendre un exemple. On a eu nous match gagné avec les ce qui s'est passé au PAOK quand notre entraîneur a été agressé. Donc on nous a donné match gagné plus 3 points de pénalité au PAOK, et dans la nuit de vendredi à samedi, le match avant la HEC contre le PAOK, ces points à 2h du matin ont été remis au PAOK. Donc vous voyez bien qu'il se passe choses un peu bizarres, quoi.
Je veux dire, on prend pas une
question à 2h du matin, quoi.
Ouais, il faut un nettoyage au niveau de la fédération et de la ligue, quoi.
Eh ben écoute, le message est passé. Merci beaucoup, bon François Modesta, Modesta.
La plus belle chevelure de Ligue 1 des 10 dernières années.
C'est vrai, t'as toujours les cheveux longs ou pas, François?
Ouais, je les perds un peu maintenant. Hein.
Tu sais le secret, Pétrolane. Faut mettre Pétrolane.
J'ai jamais mis de gel. Oui, on dit, ça passe. Les années passent.
Merci beaucoup, ciao, François, bonjour, d'avoir été avec nous, François Modesto.
Merci.
À bientôt, bonne soirée, François Modesto. Voilà, directeur sportif de l'Olympiakos, avec qui on est revenu.
Peut-être qu'avec son expérience qu'il va garder à l'Olympiakos, ça serait bien qu'il reprenne Bastia.
Ils sont quand même pas encore loin là de revenir.
Non, ça je sais, mais autant petit à petit s'il revient, ça serait bien.
Tiens, petite information également, on vous rappelle que dans le match qui avait opposé Le Havre à Quevilly-Rouen, victoire de Quevilly-Rouen dans l'un des derbies de la Normandie, il y a un envahissement de terrain de la part de certains supporters du HAC. Petite information qui vient de tomber, Jordan Olivier. Le président Vincent Volpe a accompagné d'Arnaud Tanguy, directeur général, et de Christophe Revault, qui est le directeur sportif, ont rencontré un groupe de supporters ce soir pour échanger sur la situation du club. Voilà, c'est sur le compte Twitter du HAC. Voilà, du Havre, c'est une information qui vient de nous parvenir. On passe au quiz, messieurs. Et ils sont là. Dogan est avec nous. Salut, Dogan. Attends, il est là.
Salut, les mecs.
C'est Logan ou
Dogan.
Salut, Dogan.
Supporter de l'OM, et face à lui, on a Léo, supporter du Paris Saint-Germain. Allez, les gars, c'est un petit choc PSG Marseille. Dogan, tu vas être avec qui? Avec Simone et Ali ou avec Jonathan qui est tout seul?
Marseillais, Jonathan.
Ah, là, il a pas peur.
Léo, c'est un Irlandais. C'est un Irlandais.
Parfait, parfait, ça me va très bien.
Messieurs, quiz. Il est pas mal ce quiz préparé, bien entendu, par maître Jérôme Thomas. Je vous donne un pays. Vous devez me dire qui est le recordman de buts de cette sélection. Exemple, si je vous dis France, vous me dites
Henri.
Voilà, allez, il y avait déjà dire
Thierry. Thierry. Non,
j'allais dire Thierry. Si jamais vous me donnez le nombre exact de buts, vous avez un point supplémentaire.
Oh là, bonne chance. Okay.
Vous avez compris ou pas?
Il commence avec son portable, Jonathan.
Et arrange le portable.
Regarde, c'est une honte, ça. Ça, c'est une honte. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas supporter de l'OM.
Messieurs, on y va. Je vous donne le nom du pays, il faut me retrouver le recordman de buts de cette sélection. Un indice, chez vous, Uruguay.
Forlan.
Non.
Suarez.
Oui.
Mais j'ai dit Suarez.
Qui a dit Suarez?
Oui, on t'a pas entendu.
C'est qui?
T'as pas entendu.
Putain, mais je vous promets, j'ai dit Suarez en plus.
Et... On t'a pas entendu. Visiblement.
Mais c'est quel prénom? C'est qui?
Alors tu sais quoi, on l'annule celui-là.
C'est qui? Non, c'est ça, oui.
On l'annule, on l'annule.
Non, mais c'est qui a parlé?
Dogan.
Ah, Dogan l'a dit, apparemment, c'est confirmé. Voilà, Dogan, c'est vérifié.
Moi, j'ai dit avant Dogan.
Non, tu l'as pas dit.
Gundogan.
Alors attends, combien de buts il a mis, Dogan? Luis Suarez avec l'Uruguay.
51.
Dogan, combien?
48.
Non, c'était 50, dommage, t'étais pas loin.
donc tu me donnes à moi le point.
Non, c'était celui qui trouvait un point supplémentaire. Attention, messieurs, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre?
Alan Shearer.
Non, c'est assez récent en plus.
Messi.
Michael Owen.
Non. Wayne Rooney.
Oui. Oui, bravo. Ah. T'es avec qui déjà, toi?
Dogan.
Avec Dogan.
Lui, toute seule.
Combien de buts il a mis?
Moi, je suis nul.
Combien de buts?
62.
C'était 53, dommage.
Merde.
Ah, non, mais toi, tu joues pas, c'est pas lui.
C'est pas grave.
Plus dur, messieurs, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection bulgare?
Monaco. Putain.
Berbatov. Voilà. Oh, les mecs, 3-0.
Putain.
Combien? Pourquoi 3-0 du code de
pas le premier?
Dogan, ça a été confirmé.
T'as déjà vu un arbitre portugais?
Par Simone, t'as pas de chance. Entre François la semaine dernière et Ali ce soir, t'as pas de chance, mon pote.
Fabio Capello.
Ah, je suis mal.
Ça y est, c'est fait.
Non, en plus, je suis tout seul.
Il a 60
on a pas priorité numérique. Mais
messieurs Chiu, Chiu ou Caragno. On prend rien, les mecs, là. Oh. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas?
Van Nistelrooy.
Non. Nistelrooy, il n'existe pas.
Putain, je le sais.
Non.
Ah, c'est plus récent. Van
Basten.
Non. Putain. C'est plus récent.
Non. Van Persie.
Van
Persie, tu veux que je te dise combien il en a marqué?
Vas-y.
Tu veux que je te dise?
Vas-y.
Allez, mes deux points, moi.
C'est combien?
Mes deux points.
Combien?
Et si je dis le vraiment bien, c'est triple?
Non, c'est justement, t'as un point. Combien?
À 4 buts de
non,
près.
Non, faut l'exact.
Mais t'as vu.
Dis-le.
Il a mis exactement du
jeu. Dépêche-toi, tu perds du temps, tu perds 3-1. Combien?
Comment je perds 3-1?
Dis un chiffre, allez,
combien? Ah,
premier, il est relou, Louis.
10. 58.
Et non, c'était 50, dommage.
T'as dit 50, pourquoi tu m'as pas arrêté?
Qui est le meilleur?
Attends, je suis arnaqué, toi. J'allais dire Arsenal, tu m'as dit non, mais bien sûr. Van der Sar, c'est pas
du joueur. Qu'est-ce que tu dis? Monaco, il a
dit. Messieurs, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de la Suisse?
Frey.
Ouais.
Alexandre Frey.
J'allais dire.
Combien?
Lorsqu'on a dit Alexandre.
52.
Non, 42.
Magnifique.
De la Turquie. Oh, j'adore. Oui, qui a dit Akan Çukur?
Ah ouais, mon gars.
C'est moi.
C'est qui là?
C'est Dogan.
C'est un auditeur.
C'est Simone.
C'est Dogan.
C'est qui, toi? C'est qui,
moi? C'est Simone qui a dit.
Dogan.
C'est Dogan.
Combien Dogan? Oh, combien Dogan?
Non, sérieux.
Combien Dogan? Dis un chiffre.
Akan Çukur, 78.
Non, 51.
Bon, ah merde.
C'est tellement facile, le record vient d'être battu dans ce pays, messieurs. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des Pays de Galles?
Bale.
Ouais. C'est ça.
Ouais.
Combien?
32.
Non, 29.
Que j'ai dit. Putain,
et il a battu le record de qui?
Tiens,
un
c'est ça, tiens, non, Marseille.
Il a battu le record de qui?
C'est une radia, hein. Ah, c'est une radia.
De Guiz.
Yann Roche.
Non. Oui, Yann Roche. Tiens, on vous fait un point.
Voilà. Ah, tiens, un point,
ça. Ça vous fait penser à quelque chose, là?
Messieurs, c'est une légende. C'était il y a quelques années. C'est notre enfance, nous, les 31, bientôt 40, enculés. Quel meilleur buteur de l'histoire de la Croatie?
Bah, Šuker.
Akan Šuker.
Combien?
60-62?
45.
Ouais. D'abord Šuker.
C'est tellement facile, celui
d'abord,
qui...
D'abord,
pourquoi
d'abord.
T'es comme ça,
qui est le meilleur buteur de l'histoire du Brésil?
C'est son boulot.
Hein. Ronaldo.
Non.
Ronaldo.
Pelé, quel con.
Alors, heureusement, tu l'as coté, celui-là, par contre.
Combien?
100.
Mais
c'est
le diable, c'est ça, bien sûr.
Mais qu'est-ce que tu dis?
Mais non, tu l'as pas dit.
Mais moi, je parle...
Mais tu n'as même pas écouté.
Mais t'as pas dit.
Mais écoute, mais j'ai dit. Mais j'ai dit Pelé.
Non, mais c'est con.
Non, il se retourne.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Parce qu'il est irlandais.
Parce qu'il est irlandais.
Bien sûr. Délit de la gueule. Alors,
pourquoi? Parce que Marseille.
Je suis raciste.
Parce que Marseille, il faut que perdre. Tu veux les faire gagner ce soir?
Enchaîne.
Le meilleur buteur de l'histoire de l'Allemagne.
Klinsmann.
Non.
Klose.
Ah ouais.
Klose.
Voilà, c'est des c'est dit.
Non, on le tue, non. Ouais,
meilleur vrai. Buteur de l'histoire de la Roumanie.
Hadji.
Bravo,
Hadji.
Bravo. Combien de buts?
Parfois, j'arrive 48.
35.
Bravo, ouais. Bravo Simonet d'avoir marqué un point.
Ça, c'est pour toi, Ali.
38.
Meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie.
Je te laisse.
Non,
c'est plus récent.
Cadeau.
Ah, c'est.
Cadeau.
Madjer.
Non, c'est pas Madjer, non, c'est...
En avant Guingamp.
Ah, Tasfaout. Hafid Tasfaout.
Combien?
Il a dû à mettre...
J'allais dire Hakim Fatih.
39.
Bravo, Ali. Bravo,
34.
Ali.
Bon, 9-4. Bravo, hein. Bravo, Ali. Bravo, Ali. Bravo à toi, Dogan.
Bravo.
T'as gagné
bravo.
Un lot de
t-shirts
de l'Inter.
Bon, tu vas retrouver.
Merci à tous, les mecs. Bonne soirée. Merci à Dogan. Merci à Léo. Merci, Ali. Merci, Jonathan.
3 points, j'ai mis.
Merci, Mille. T'as été très, très bon.
C'est un scandale.
Non, mais merci à toutes les équipes techniques.
Quel effet ça fait de gagner?
Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve demain, bien entendu. Et demain, gros combat de boxe que vous pourrez suivre dans l'After et sur SFR Sport. Joshua face à Parker. Ce sera à suivre. On sera là jusqu'à 1h du mat, d'ailleurs, demain.
C'est bon, ça?
Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, ah je dis ouais, à demain, bisous.
Ciao,
ah ouais.
Ciao.
Ah ouais.
RMC, le super football show, l'After Foot.